France Info.
Bonjour David Guetta.
Bonjour.
Vous êtes surnommé DJ numéro 1 et pour cause, hein, vous êtes l'artiste français le plus écouté dans le monde, classé dans le top 10 mondial de Spotify. Vous avez déjà vendu plus de 50 millions d'albums. Une belle récompense, hein, pour ce petit garçon que vous étiez, fasciné par le son et les platines. Vous n'aviez d'ailleurs pas encore 18 ans que déjà vous fréquentiez une radio libre pour vous exercer, pour mixer et peaufiner vos premiers sets. C'était une époque où les platines vinyles pesaient très lourd, qu'on se le dise. C'est en 2001 que le public vous a découvert avec Just a Little More Love et le fameux Love Don't Let Me Go avec Chris Willis. Et depuis, vous ne nous avez jamais quittés. Pire encore, vous nous avez toujours proposé de nouvelles créations avec bien souvent des collaborations avec les plus grandes stars de la planète. Je pense à Sia, Nicki Minaj, à Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande, One Republic et j'en passe. Cette carrière de pionnier du mouvement des DJ et star française des platines est inégalée et sera donc difficilement égalable. Alors pour fêter cette longévité, cette notoriété, vous avez décidé de nous offrir un cadeau et de vous offrir un cadeau par la même occasion. Vous serez les 12 et 13 juin pour la première fois de votre carrière au Stade de France à Saint-Denis avec The Ultimate Monolith Show avec le DJ producteur sud-africain Black Coffee en première partie. Ça vous fait peur ou pas? Je voudrais savoir quelle émotion vous avez, David, de rentrer pour la première fois au Stade de France, que vous aviez déjà fait avec Cathy en organisant une soirée avec plusieurs artistes, mais là pour le coup c'est vous tout seul sur scène.
Oui, alors c'est incomparable parce que j'avais ouvert pour Rihanna, j'avais ouvert pour George Michael, tout ça, mais là c'est ma responsabilité parce que bon, bah, c'est mon show. On m'a souvent demandé, mais pourquoi tu fais pas Stade de France? Et comme je suis assez angoissé, assez peureux, j'ai toujours peur de pas remplir. C'est fou parce que, en plus, ça cartonne quand même vraiment très fort partout. Mais j'ai toujours peur de pas remplir et j'ai toujours eu peur de faire le Stade de France. Et en fait, comme j'ai fait le Vélodrome à Marseille, c'était tellement dingue, c'était tellement extraordinaire comme expérience. Ouais, 65 000 personnes. Et du coup, bah, ça m'a encouragé d'y aller, je me lance, je le fais ce Stade de France. Et puis, je suis parisien, ça a pas de sens d'oser le faire à Marseille et pas à Paris, quoi. Voilà. Alors, on va voir si les Parisiens sont au niveau des Marseillais, parce que les Marseillais, ils étaient quand même très, très chauds. Hein.
Vous avez eu très tôt envie d'être sous le feu des projecteurs.
Je sais pas si c'est l'envie d'être sous les projecteurs, ou en tout cas d'être DJ, ça a toujours été. C'est-à-dire que vraiment, depuis mon enfance, et à un moment où il n'y avait aucun DJ célèbre. C'est ce qu'il faut comprendre parce que...
Il y avait tout à créer.
C'est ça. On n'était pas du tout dans le choix d'un métier de célébrité à l'époque. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de célébrité. Donc, je peux pas vous dire que c'est ça qui m'a attiré. C'était pas le cas. J'étais juste très passionné par la musique et surtout l'envie de partager avec les autres. Et je crois que c'est ça qui est super important. Et je pense que c'est pour ça que ça marche encore pour moi. C'est parce que je suis toujours, et je suis assez connu pour ça dans le métier, avec beaucoup d'interactions avec mon public. Et je me vois pas comme la star sur scène. Je me vois plus comme je viens faire la fête avec vous et on partage un super moment ensemble. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That will be the best therapy for me.
Quand on vous regarde, il y a toujours eu effectivement ces yeux entre guillemets d'enfant.
Oui, c'est vrai.
On a l'impression de voir vos parents derrière vous, c'est-à-dire qu'ils vous ont toujours soutenu. Votre père vous a toujours dit « travaille les sons ». Il y a effectivement ce disque qui va changer votre vie, « Thriller » de Michael Jackson. C'est là d'ailleurs qu'il vous dit de peaufiner. Il était très mélomane. C'est le point de départ, ça. C'est la confiance qu'ils vous ont donnée.
En fait, c'est pas que ils m'ont jamais poussé dans la musique. Mais par contre, c'est vrai que même quand j'étais puni, parce que je faisais plein de conneries quand j'étais adolescent, ils m'enlevaient tout, le droit de sortir, tout ça, mais jamais la musique. Et donc, cette partie-là, ils savaient que c'était quelque chose d'assez sacré pour moi. Et il a compris que c'était important, même si je pense ni lui ni ma mère n'imaginaient que j'allais faire carrière là-dedans. Je me souviens très bien du rendez-vous avec mes parents et la prof de maths qui disait mais ça va pas du tout, il travaille pas. Et j'ai dit, de toute façon, moi, les maths, en fait, je vais être DJ, ça va pas me servir à grand-chose. J'avais vraiment tort à l'époque, puisque en fait, la musique, c'est des maths, en fait. Mais je savais pas à l'époque.
Pourtant, vous vous êtes inscrit à l'université. Et pendant que vous étiez à l'université, vous aviez déjà une rythmique assez incroyable. Hein. Le matin, vous alliez en cours. L'après-midi, en gros, vous rameutiez du monde. Et le soir, vous mixiez.
Je dormais pas beaucoup. Hein.
Oui, mais les études, c'était quoi? C'était pour rassurer vos parents?
Oui, vraiment. J'ai continué à aller à la fac pour faire plaisir à mes parents. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai fini ma troisième année. Et là, j'avais déjà quand même beaucoup de succès. Donc, J'ai dit, bon, je vais rester sur ma licence, je vais pas faire une maîtrise, ça sert à rien. Je vois bien que je vais faire ce métier. Et puis, je gagnais déjà bien ma vie, tout ça. C'était au cas où ça marche pas, quoi. Et puis, bon, il y a un moment, il faut se lancer. De toute façon, tout ce qui est artistique, il y a un moment, il n'y a pas d'autre choix que de prendre un risque. Et c'est toujours compliqué parce que c'est vrai qu'il y a peu d'élus. Donc, je comprends aussi que pour les parents, ce soit pas forcément rassurant. Mais avec le recul, on passe tellement de temps à travailler dans notre vie que vraiment, c'est pas possible de faire un métier qu'on n'aime pas, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va dédier 70% de notre vie à faire un truc qu'on n'aime pas, c'est horrible. Je pense que j'aurais cette démarche, et c'est celle que j'ai avec l'éducation de mes enfants. Peu importe ce qu'ils font, mais je veux qu'ils fassent quelque chose qui les passionne, parce que du coup, je pense que l'explication de mon succès, c'est juste parce que je travaille plus, parce que comme j'aime tellement ce que je fais, j'ai pas de limite dans ma capacité à travailler, parce que je m'éclate, quoi, voilà. I can't win, I can't rain. I will never win this game without you, without you, without you,
without you, without you. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'imposteur ? Je vous pose la question parce que vous travaillez d'arrache-pied depuis que vous êtes tout petit et on a le sentiment que justement vous aviez toujours eu des choses à prouver.
Alors le complexe de l'imposteur, c'est drôle, je croyais que j'étais le seul et j'ai dîné un jour avec Omar Sy qui m'a dit qu'il était exactement dans la même situation que moi et qu'il avait toujours l'impression que sur le plateau on allait lui dire « Bon écoute, maintenant t'arrêtes tes conneries, on t'a démasqué, tu dégages ». J'ai complètement le complexe de l'imposteur, j'ai complètement l'impression qu'il y a plein de gens qui sont tellement plus doué que moi et qui devrait être là à ma place. J'ai l'impression qu'un jour, il y a quelqu'un qui va me réveiller le matin et qui va dire « Non, tout ça, c'était une blague. Faut tout rendre, c'est fini. » Je sais pas pourquoi je vis avec ça. Je croyais que j'étais fou et que j'étais le seul. Mais en fait, il y a plein d'artistes dans mon cas.
Donc ça a toujours lieu aujourd'hui.
Ça me pousse à continuer à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que tous les soirs, en me couchant, je regarde des tutoriels de production, comment être un meilleur ingénieur du son. Alors, plus vraiment pour le DJing, parce que bon, j'ai quand même assez, j'ai une bonne maîtrise de la chose, mais en même temps, je vous dis, il y a un truc qui est assez extraordinaire avec la musique, c'est que vraiment, on n'arrête jamais d'apprendre. Jamais, jamais, jamais. Il y a une base, on va dire, de théorie musicale, qui d'ailleurs m'a beaucoup manqué, parce que moi, j'ai pas une formation classique, mais donc, ça déjà, il m'a fallu un bon moment pour bien tout comprendre et je suis qu'à la moitié. Et puis après, du point de vue des techniques de production, ça évolue, le sound design, ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut se tenir au courant, connaître les nouvelles machines. Bon, maintenant, il y a l'AI, par exemple, qui va forcément rentrer dans la production. Il n'y a aucun doute, quoi.
Ce qui est étonnant, c'est que vous avez toujours plus ou moins eu un coup d'avance, David. C'est-à-dire que vous avez très vite compris qu'il fallait avoir une sorte de rigueur, même dans les choix, être cohérent. Cette cohérence, vous l'avez vraiment maîtrisée très vite. Donc, vous avez commencé à organiser des soirées. Vous avez été repéré par, on va dire, un cadre de l'underground. Ensemble, vous avez créé des soirées. Vous aviez déjà commencé par mixer alors que vous étiez mineur dans une boîte du côté des Halles. Et vous saviez que vous alliez devenir le maître du jeu. C'était une façon, j'ai l'impression, d'être au centre du game, comme on dit, au centre du jeu, et de comprendre exactement là où vous vouliez vous situer, vous.
Alors, vous parlez d'un sujet qui est très intéressant, que je pense n'importe quelle personne qui vit de sa musique a ce problème, c'est accepter et savoir qui on est. Parce que quand j'ai commencé, on a commencé à peu près au même moment, Laurent Garnier et moi. Et alors, des fois, c'était compliqué parce que des fois, j'avais envie d'être plus dans l'underground, même si quand j'ai commencé, c'était très underground, bien sûr, puisque il n'y avait pas cette scène crossover comme il y a aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à avoir du succès, c'était très difficile d'accepter mon succès. Parce que, évidemment, plus on a du succès populaire, moins on en a dans l'underground, parce que ça se contredit, parce que par définition, l'underground, c'est ce que les gens n'écoutent pas. Donc, il y a un moment où j'ai accepté qui j'étais, j'ai une oreille qui est très pop, j'adore les chansons, et même si encore aujourd'hui, je suis tout ce qui se passe dans l'underground et ça m'influence énormément dans ma production, je sais que je suis un artiste pop. Et je pense que dans la carrière d'un artiste, savoir qui on est, c'est vraiment le point essentiel parce que c'est là où ça peut commencer à vraiment marcher. Au début, on se cherche en fait. Et puis, moi, je l'ai vu, mais vraiment très souvent, des gens qui ont du succès et qui le vivent mal parce que ils s'y attendaient pas. Et ils ont peur de plus être acceptés par leur communauté. Et moi, en fait, j'ai toujours refusé d'être avec une étiquette dans une boîte. Je supporte pas ça, en fait, parce que je trouve que d'être un artiste, c'est justement être capable d'avoir un regard sur le monde qui est différent. Donc, s'il faut obéir à des codes, que ce soit les codes de ce qui est pop, les codes de ce qui est branché, les codes de ce qui est underground, mais en fait, ça m'intéresse pas, parce que pour moi, c'est pas ça la créativité. La créativité, et donc pour moi, l'activité d'artiste, c'est d'être capable de créer des nouveaux codes. Loving you has set me back again. When I thought I had
you to myself, you were living for my friend. Vous avez toujours eu cette démarche finalement de laborantin en quelque sorte, c'est-à-dire que les soirées que vous avez organisées,
c'est complètement expérimental.
Voilà, c'était un laboratoire, vous testiez des choses, d'aller sur cette radio libre, c'était une façon de tester des choses, de savoir effectivement où vous aviez envie de vous situer. Il y a cette collaboration avec Robert Owens, qui est un personnage incontournable de la house. J'ai l'impression que ça va être un tournant, ça, ce titre que vous allez faire ensemble, que ça va en tout cas vous apporter Up and Away, que ça va être quelque chose qui va apporter quelque chose aussi à vous-même et à l'image que vous vouliez renvoyer.
Bien sûr, bon, c'était là, on parle d'un titre que j'ai fait en 92. À l'époque, je m'occupais du Queen, je faisais la programmation du Queen, et puis j'étais DJ aussi. Et j'avais invité Robert Owens un jour à performer, qui est une voix légendaire de la house music. Alors pour le coup, très underground. Et puis, j'en ai profité pour l'inviter à enregistrer dans ma cave. Je vivais encore chez mon père à l'époque, et j'avais cette cave que j'avais transformée en studio. Et on a fait ce premier titre de house music assez peu connu, en fait. Les gens m'ont connu à partir du moment où j'ai fait Just a Little Love et Love Don't Let Me Go. En tout cas, ça a été ma première expérience de sortir un titre. Alors, c'était le début. Faut vraiment situer, hein, la house music, c'était un tout petit phénomène.
C'était une niche.
C'était vraiment une niche. Mais je me souviens, à l'époque, il y a un DJ qui était très célèbre, qui s'appelait Danny Tenaglia, qui était vraiment le son de New York à l'époque, et qui jouait mon titre, et je l'avais rencontré, et du coup, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire, je peux peut-être devenir un artiste international. Alors, j'imaginais pas du tout le succès ou la dimension que ça pourrait prendre, évidemment, mais juste le fait d'avoir des DJ que j'admirais, qui jouaient ma musique, c'était déjà quelque chose de fantastique pour moi.
Ensuite, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes un pionnier dans les DJ, c'est-à-dire qu'en France, quand vous démarrez, tout était à faire, tout était à créer. Déjà à Londres, ils avaient une longueur d'avance, aux États-Unis aussi, mais en France, on était quand même très en retard. Il y a eu cette envie aussi de créer des résidences. Vous avez joué dans des discothèques, certes, mais il y a eu ce besoin d'aller en résidence, donc Ibiza, Las Vegas, là, votre nom, il a commencé vraiment à dépasser les frontières. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a dépassé, David, cette notoriété, ce succès Est-ce que vous avez perdu pied, d'ailleurs?
J'ai pas l'impression, parce que, en fait, on parlait tout à l'heure du complexe de l'imposteur. Je fais vraiment la part des choses, c'est-à-dire que j'ai mon métier, j'ai le moment où je suis sur scène, où donc je délivre un show, et puis il y a un personnage voilà qui peut inspirer les gens. Mais après, dans ma vie quotidienne, j'ai l'impression d'être complètement normal, quoi. Je ne crois pas être quelqu'un de si exceptionnel que ça. Et donc, même quand les gens me disent bon, je vais pas même répéter, j'ai honte de même répéter ce que les gens peuvent me dire. J'y crois pas. Mais je pense que c'est bien pour la santé mentale, parce que si on commence à se prendre pour Dieu, c'est là où ça va pas. J'ai juste eu un moment qui était difficile, où ma musique a explosé, et j'ai vraiment, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est la vérité, j'ai vraiment fait rentrer la dance music dans la culture pop américaine. La dance music, la house, c'est né aux États-Unis bien sûr, mais ça a toujours été underground. Et puis, au moment où j'ai fait I Got a Feeling, Sexy Beach, Memories, tout ça, j'ai commencé à travailler avec des artistes comme le Black Eyed Peas ou Nicki Minaj. Et donc, là, tout d'un coup, les radios américaines ont changé de format, ce qui est quand même assez dingue. C'est assez fou. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé vraiment avec tous les jours les plus grandes stars du monde qui m'appelaient pour aller en studio avec moi. Des numéro un dans le monde entier, en permanence, tout ça. Et là, je suis rentré dans une dynamique qui était très, très angoissante. Parce que c'est d'ailleurs une conversation que j'ai eue beaucoup avec Avicii, qui, lui, n'a pas du tout supporté. Parce qu'en fait, quand on est tout en haut, parce que là, c'est vraiment tout en haut, ben, il y a qu'une direction, c'est d'aller vers le bas, quoi. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'on est tout en haut. Et donc, en fait, on commence à vivre en permanence dans l'angoisse de comment faire pour garder son succès et ne pas descendre. Et ça, c'est une vie qui est horrible parce que tant que ça va vers le haut, ce sont que des bonnes surprises. C'est que de l'inspiration, c'est que du « waouh, c'est magique, mais j'aurais jamais cru ». Et donc, c'est que de l'amour, c'est que de la passion, c'est que du positif. Et quand on est tout en haut, ça devient la peur. La peur, c'est horrible. Ça tire vers le bas l'énergie et ça peut être vraiment dramatique. On l'a vu avec Avicii qui en est mort. Et j'ai connu cette période très angoissante. Et finalement, bah, il y a un moment, comme dans toutes les carrières, c'est redescendu un peu. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. J'ai continué à sortir de la musique, j'ai continué à faire ce que j'aimais. Et puis, c'est remonté. Mais une fois que je suis revenu au top, j'avais plus du tout le même regard. Parce que j'étais passé par un moment où je sortais des disques juste parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me rend heureux, sans avoir d'attente. Et c'est ça, en fait, le moment qui est horrible. C'est le moment où tout le monde attend de vous de faire que des numéros 1. Mais en fait, il n'y a personne qui est capable de faire que des numéros 1. Et quand on commence à croire nous-mêmes à l'histoire qu'on nous raconte, c'est-à-dire qu'on fait que des numéros 1, ben là, on n'est pas heureux. You got me dancing and crying, rolling and flying. Love, don't let me go. You got me drowning in a river, cold, burning fever. Love, don't let me go.
Comment vous travaillez votre mental alors? Parce que c'est comme un sportif de haut niveau. Quand il est champion du monde, il ne veut pas redescendre. Quand il est champion olympique, il ne veut pas redescendre. C'est le même principe finalement. Il faut toujours être numéro 1.
Ce que je veux dire, c'est non, il ne faut pas toujours être numéro 1.
C'est très difficile.
Et c'est ça le secret. Et c'est ce que j'essaye de partager.
Malgré l'exigence, c'est ça que je veux
dire.
Il y a une exigence.
Parce que j'en ai beaucoup souffert. Et ça a vraiment aussi beaucoup entaché ma créativité à ce moment-là. Et c'est ce que j'essaye de dire à des plus jeunes artistes qui ont du succès. C'est qu'en fait, il ne faut pas du tout être obsédé par ça parce que ça ne fait que nous tirer vers le bas. Et tant qu'en fait, on a la chance, l'honneur, le bonheur de pouvoir vivre de notre métier, c'est déjà un miracle. Et on sort des disques et c'est le public qui choisit. Il y a des disques qui vont faire des flops et c'est pas grave. Et il y a des disques qui vont cartonner et c'est génial. Mais l'important, c'est de continuer à faire ce qu'on aime. Le moment que j'ai le plus mal vécu, finalement, c'est quand ça marchait un peu moins bien. Et puis alors, ma maison de disques aux États-Unis me disait « parce qu'il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça ». Et je le faisais alors que ce n'était pas vraiment ce que j'aimais. Et du coup, ça marchait encore moins bien. Et ça, c'est la pire des sensations. Donc, je fais ce que j'aime et j'espère de tout mon cœur que ça a marché. Comme là, j'espère de tout mon cœur que je vais remplir le Stade de France. Je vais faire le meilleur show
The
possible.
Ultimate Monolight Show. Je voudrais que vous en parliez parce que ça va venir clôturer 3 ans dans le monde entier, etc. On sait que ce show, il est exceptionnel parce que vous faites appel à tous nos sens. C'est une expérience, en fait. C'est même pas un concert.
Oui, c'est ça. Le monolithe, c'est un énorme objet que je place. C'est un peu un truc d'alien. Hein. On dirait un peu que c'est tombé de la galaxie. Et bon, c'est une très grosse prod. Parce que, effectivement, là, ça sort du contexte DJ de boîte de nuit. C'est vraiment un show d'artiste, quoi. C'est un concert et il faut mettre le paquet sur la prod. Et puis surtout, moi, je pense que la force, c'est toujours l'interactivité avec les gens, même si je mets le paquet sur scène. Et donc, je l'ai vu à Marseille parce que c'était absolument dingue. Vraiment, c'est une des plus belles soirées de ma vie. Le spectacle, il est autant sur scène que dans la salle, quoi, en fait. C'est l'énergie. Et il y a un truc qui est magnifique dans la dance music, c'est la positivité. C'est le fait qu'on est dans un moment où on ne fait plus qu'un. Il n'y a pas d'opposition. La culture musicale house, elle est née dans les clubs gays. Et dans les clubs gays noirs, en plus, à Chicago. Et donc, ça vient vraiment d'une culture d'acceptation des différences, de l'acceptation de l'autre et de tolérance. Et donc, c'est vrai que là, on vit dans un monde qui est très tendu et avec beaucoup d'opposition. Et moi, je participe à ma manière en donnant de l'amour et en donnant des moments où les gens oublient tout, vraiment. Et pour une soirée, on est tous ensemble, on fait qu'un et on laisse tout de côté, quoi.
Plus de 80 millions d'auditeurs mensuels, plus de 50 milliards de streams. Vous êtes dans le top 10 mondial Spotify. Vous avez vendu 50 millions de disques. 7 singles ont été classés numéro 1 au Royaume-Uni. Vous avez remporté 2 Grammy Awards parmi 11 nominations, une pluie de récompenses. Vous avez été élu 4 fois meilleur DJ du monde. Est-ce que vous avez toujours cette magie et ce plaisir de monter sur scène? Est-ce que vous délectez de temps en temps? Vous prenez juste le temps de vous dire, le public est là, je suis toujours là?
Tout le temps, tout le temps. Je dis merci tous les matins. Je suis dans la gratitude au maximum. Je trouve que c'est un miracle. Vraiment, déjà, c'est un miracle d'avoir connu un succès dans sa vie en tant qu'artiste, mais que ça dure autant de temps, c'est fou. Et j'adore être sur scène. J'adore partager, parce que c'est ça qui m'a donné envie d'être DJ. Et même ma démarche par rapport au début de la house music, on était dans un milieu où un peu de l'entre-soi. Et moi, je dis, mais non, moi, j'adore cette musique, je veux la partager avec tout le monde. Et c'est vraiment, je suis toujours dans la même démarche. C'est-à-dire que je donne mes hits, mais en même temps, il y a satisfaire le public et il y a aussi la découverte. Et c'est toujours cet équilibre qui m'intéresse, de faire découvrir des nouveaux sons et en même temps, mettre une ambiance de malade et de partager avec les gens. Donc, c'est ce qu'on va faire au Stade de France.
Le Monolith Show, l'ultime Monolith Show, ça aura lieu donc les 12 et 13 juin au Stade de France. Venez nombreux, mais je crois que c'est tellement dur d'avoir des places pour venir vous voir. Ça se vend tellement rapidement. Ensuite, il y aura effectivement ce besoin de vous entendre. Je pense qu'il y aura des albums qui vont sortir en suivant.
Mais comme je vous disais, Marseille, on a vendu en quelques minutes, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours très peur. J'ai peur de ne pas remplir. Je ne sais pas pourquoi. Je suis un angoissé comme ça, mais je pense que c'est sain. Je pense que c'est sain et que c'est pour ça que je continue à me battre pour être le meilleur possible. Et puis, bien sûr, oui, il y a plein de nouveaux morceaux qui arrivent. Là, je suis en train de finir un morceau que j'adore avec un de mes artistes préférés. Donc, je ne peux pas en parler, mais il va y avoir une bonne surprise très bientôt.
Merci beaucoup. En tout cas, David Guetta, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Monolith Show, l'ultime.
C'est-à-dire qu'une fois, déjà, je pense que ce sera le dernier de la tournée, la dernière fois que j'utilise le Monolith. Et puis, une fois que j'aurai fait le Stade de France dans ma ville, c'est difficile de faire plus, quoi.
La boucle est bouclée. Merci beaucoup, David Guetta.
Merci. Shorty, it's never too much. Keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, 'cause I'm free to whatever, there's no rush. So many boys in here, where do I begin? Two years ago.